je vais vous parler bien sûr de Zazie Wells, mais je vais surtout m'appuyer, je vais faire en fait une sorte de mise en perspective sur, à partir de Zazie Wells pour vous présenter d'autres choses et puis peut-être un nouveau site. Alors je pose un petit préambule. Si le web n'existait pas, il faudrait l'inventer. Car le web pense différemment et de manière inédite les catégories, les normes, les genres, les relations de pouvoir. Il impose d'emblée la mise en lien, l'appel à retour via les forums ou les commentaires sur les blogs, l'interactivité via le mail, la liste de diffusion ou les flux RSS. Donc je propose aussi des notions sur lesquelles je vais revenir, hein, bien sûr. Il pose une ergonomie, une architecture visuelle synthétique à hauteur écran et à échelle humaine qui repense la mise en espace de manière structurée et étudiée. Il impose en fait à penser dans d'autres schémas. C'est à la fois une interface, un territoire, un lieu de vie, une chambre d'écho, une mise au lien, un art de la subjection où l'internaute, invité, autodidacte, en passe par une phase d'appropriation au long cours. Le web est aussi un élément organique d'auto-organisation et d'autorégulation permanente. Le web rend obligatoire l'exercice du don et de la réciprocité dans sa faculté à créer du lien et de l'échange. Il agit en contre-pouvoir médiatique à l'encontre des médias mainstream. Il porte en lui sa fragilité aussi. Instabilité technique du réseau, absence de modèle économique pérenne, instabilité de ses équipements, course en avant des matériels et solutions logicielles, et ses forces, virtualité absolue des modèles, modèles hors normes et transgenres. Il agit comme technique contenant et contenu, forme et fond liés. En même temps, il semble qu'on ne publie que sous la contrainte du web, dans les limites d'un territoire donné. À la lecture, qui est déjà un hypertexte en soi, un hypertexte de l'imaginaire, le web apporte une forme contrainte, mais aussi une ergonomie, une technique, un geste irradiant nouveau pour l'auteur, et en même temps très vite, pouvant sembler ultra limité, contraignant, aliénant, épuisant ses formes et sa virtualité, diluant les textes. Sur le web, le texte est partout, et sa circonférence, nulle part. Aujourd'hui, le web, notamment avec le phénomène des weblogs, propose de nouveaux schémas de gestion des communautés et de diffusion des contenus, que nous nous efforcerons de proposer en applicatif sur le site ZazieWeb. Alors, ZazieWeb, mon propos, ce que je souhaite construire au quotidien avec ZazieWeb, du site personnel des débuts, donc en 1996, jusqu'au site contributif d'aujourd'hui, c'est une interface aussi, je dirais, adéquate que possible, où l'ergonomie serait au service des contenus et de la mise en réseau des personnes. Ici, donc en l'occurrence, la cible, le public, ce sont des lecteurs. Or, le web du début a fortement évolué. Et je m'efforcerai de montrer ici que la mise en valeur des contenus et de la mise en lien est tributaire de la forme et ergonomie du site et de son applicatif technique ainsi que de son modèle économique. ZazieWeb suit ainsi une évolution nécessaire et vitale du fait de contraintes économiques et techniques. Des solutions émergentes sont aujourd'hui à l'œuvre et permettent de repenser les schémas d'appropriation et de diffusion des contenus sur le web. Alors un petit point technique, c'est-à-dire qu'on a abordé au tout début du site ZazieWeb des modèles techniques qui étaient basés sur du HTML. Ensuite, on est passé à une base MySQL du PHP. Aujourd'hui, on va plutôt vers de la syndication en s'appuyant sur les flux RSS et des choses qui tournent en fait autour des notions de web sémantique, avec un modèle donc différent de propagation et diffusion des contenus, au départ unipersonnel, puis collaboratif, communautaire et modéré, donc c'est le site ZazieWeb actuel que vous voyez actuellement en ligne. Et puis on va vers un site donc syndiqué et diffusé non modéré qui s'appuie en fait sur les weblogs. Et peut-être finalement le retour à une forme unipersonnelle, une forme blog, et certainement au principe formateur du do it yourself. Alors rappel historique, ZazieWeb je viens le décrire finalement comme une simple interface. Mutante un petit peu avec quelqu'un derrière, une interface ou une zone d'activisme culturel, sachant que l'intérêt du web c'est la prise en compte effectivement de la relation à autrui sur un mode différent, plus accéléré, plus direct que dans le réel. Il ne s'agit pas de reproduire des schémas qui existent, à l'instar par exemple d'une revue littéraire sur internet, mais de construire de nouvelles relations. Ce qui m'intéressait au départ et qui m'intéresse toujours, c'est la manière dont le média, à la manière d'une architecture, reconstruit, réinvente les relations entre les gens, entre les textes, entre toutes ces articulations possibles qui existent entre les personnes et les livres. Donc un petit rappel sur le contexte et descriptif du site. En 1996, donc, c'était un espace personnel de diffusion et d'information sur le web. Une lettre d'information, des échanges surtout par email. En 1998, il y a de nouveaux modèles web qui émergent, qui fédèrent des communautés de clients. Hein, on parlera de communautés de clients autour de grandes thématiques. Sur le modèle de eBay, Amazon, apparaissent aussi des nouvelles possibilités techniques sur la base des modèles des bases de données. Et puis une demande de participation de plus en plus forte à l'œuvre sur le site. à ce moment-là, il y avait deux choix, à la fois, je dirais, de gestion du contenu et de gestion technologique, soit restreindre, au contraire, le site, soit accroître et répondre à une demande de participation. Le choix qui a été fait, c'est d'accroître parce qu'il y avait un projet qui était lié et qui m'intéressait. D'où une modification technologique de l'interface du site, une modification aussi du graphisme, et un aménagement des espaces de mise en réseau pour les lecteurs. Donc on arrive à une version qui est en fait la version actuelle, qui date déjà de 2000 finalement, avec une interface média au service de la communauté, avec des problématiques spécifiques sur l'organisation de la communauté, la scénographie de l'interactivité, aussi la notion d'espace personnel de lecteur, la notion aussi d'archive des parcours de lecteur, puisque tout le contenu est archivé. Les différentes versions aussi du site sont archivées, ça c'est quelque chose qui me semble assez important, qu'on retrouve très peu en lien sur les sites, même sites institutionnels. Donc en fait, quand on va dans Kezako Zaziweb, on retrouve les premières versions. Donc ça passe aussi par l'organisation du cadre d'autopublication pour les lecteurs, sachant, ça c'est important, que le site ne s'adresse pas à des auteurs qui voudraient publier, donc le public, ce sont bien des lecteurs qui s'expriment sur des œuvres a priori déjà publiées, sur support papier. Voilà. Même si dans d'autres espaces du site, on a vocation à repérer des œuvres qui seraient uniquement sur des contenus numériques. L'organisation aussi de différents niveaux de contribution possibles, une historisation aussi du parcours du lecteur. Donc ça, c'est vraiment la toute première version. Voilà. Donc une incitation aussi à la mémoire et à la mise en archive. Ça, c'est important. Donc si on décrit plus précisément, sur le site, chaque lecteur dispose d'un ou plusieurs pseudonymes qui lui confèrent une identité virtuelle. Il gère ses centres d'intérêt, ses relations avec d'autres lecteurs à partir de son espace personnel, sur lequel il dispose également d'une boîte aux lettres privative. Il peut, s'il le souhaite, envoyer en son nom pseudo des informations qui seront, après modération, alors ça c'est important, tout le contenu envoyé est modéré. En même temps, c'est ce que j'écrirai un petit peu plus tard comme des limites très claires actuelles. Différents niveaux de rubriques permettent un traitement adéquat via la modération pour orienter les textes selon différents niveaux de lecture. Ça aussi c'est important, c'est-à-dire il y a un niveau un petit peu plus brouillon, désordre, qui sont les forums. Et un niveau un petit peu plus noble qui peut donc être dupliqué dans les rubriques. Des mises en avant également possibles à partir de la page d'accueil du site. Le public du site est constitué donc avant tout, c'est ce que je disais, par les lecteurs, pas les auteurs, pas les éditeurs, pas les consommateurs ou acheteurs de livres. Ceci n'empêche pas que ces derniers peuvent également consulter le site. Donc tout le site est bien sûr entièrement consultable sans qu'on soit logué. Le simple fait de s'inscrire permet bien sûr de recevoir la newsletter et permet simplement d'envoyer des informations et d'être identifié comme auteur de ces informations. Il est important également de créer et de capitaliser autour d'un sentiment fort d'identité et d'appartenance à la communauté des électeurs. Il a ainsi été nécessaire d'imaginer des espaces sur le site où le lecteur puisse proposer, réagir à l'information, voire se rendre lui-même animateur d'une rubrique. Être présent sur Zaziweb constitue un engagement culturel, à la fois individuel et collectif, participant à la construction symbolique de la valeur culturelle qu'elle représente. Par sa forme même, les traces, les informations, les débats, les citations s'inscrivent dans un espace scriptural numérique et constituent des formes spécifiques d'une mémoire en cours de formation. La nature même de l'écrit et de sa conservation en ligne font d'une temporalité une mémoire que l'on ne retrouve pas forcément dans les dispositifs de la salle de classe ou dans les dispositifs liés aux flux audiovisuels incessants de la télévision et de la radio. Il y a donc une certaine œuvre patrimoniale et culturelle qui se manifeste ainsi sur un site internet qui se construit comme une encyclopédie vivante en cours de remise en cause permanente. Cet exemple constitue bien un témoignage de la richesse et de la vitalité des cultures électroniques, pour reprendre une expression de Rengel, et pose des questions à l'anthropologie culturelle et aux formes nouvelles de médiation culturelle. La culture devient dans ce sens non seulement un processus actif, un dispositif, un ensemble de médiation, de relations, de communication, mais aussi d'une certaine façon un enrôlement identitaire, existentiel et social, une forme d'engagement, un rapport aux autres, tout en créant une force sociale. Alors des enjeux actuellement, sur le rôle de l'interface, comment on peut poser c'est vrai qu'il n'y a pas de limite sur Internet, donc comment on peut poser la clôture, la limite, imposer le territoire, voire créer de l'oubli, ça c'est aussi le rôle des interfaces, délimiter, quelle est l'intention et où doit-elle se situer. Une nouvelle notion aussi donc importante, celle de communauté de lecteurs, un partage d'aventures sous forme collective, différent de l'organisation traditionnelle verticale du milieu littéraire, ça c'est important. La notion d'adhérent qui peut donner son avis, le retour quelque part de la revue ou du café littéraire, le cabinet de lecture. actuellement des limites sous la forme de la gestion du site, puisque c'est une forme associative avec, je dirais, une seule personne salariée à temps plein, plus de 15 000 espaces personnels de lecteurs, une gestion des contenus en flux direct et modéré, une mise à jour permanente et quotidienne des contenus. On peut parler d'un nouvel esclavage des temps modernes. En 2004-2005, on assiste à l'émergence des blogs et surtout le plus important, ce que je vais vous détailler par la suite, la technologie des flux RSS proposée en standard sur les outils de publication de type blog. On va assister, donc tout ça je vais le démontrer un petit peu plus dans le détail par la suite, une inversion en fait intéressante des processus de flux des contenus et peut-être un autre modèle de diffusion possible sur le web. Donc en 2006, a priori, un autre site en vue. La révolution copernicienne des weblogs. Qu'est-ce qu'un blog ? Le blog, c'est une contraction de weblog. C'est un site web donc caractérisé par un format qui prend la forme de texte, de liens hypertextes et ou d'images publiés au fil de l'eau, en général par un auteur unique à titre personnel. Dans ce cas, c'est vrai que la forme la plus courante prendra la forme du journal intime, mais le blog peut être aussi utilisé comme un outil de publication collaboratif à plusieurs. Plusieurs auteurs peuvent être autorisés ou invités sur un même blog. Au-delà de cette forme-là, c'est surtout un ensemble d'outils de publication simples et dynamiques pour monter un site web. On parlera de système de gestion de contenu qui permet de créer facilement un site dynamique et de l'alimenter en quelques clics sans avoir à se préoccuper de la technique. C'est vrai que même les premiers sites en HTML, il faut un petit peu bidouiller dans le code ou dans Dreamweaver. Là, c'est vrai que c'est très très simple et très très rapide. Un blog est donc un outil simple d'utilisation, une interface en ligne qui ne nécessite qu'un mot de passe pour y accéder, où il suffit d'indiquer un titre, un message, et d'appuyer sur un bouton pour être aussitôt lisible sur le web. C'est vrai que c'est très très instantané, on pourra faire un atelier blog. C'est aussi, ça c'est important, un outil de publication auquel on peut avoir accès de n'importe quel cybercafé du monde, c'est-à-dire on peut se loguer de n'importe quel point d'accès et mettre à jour son site. Donc on peut voir un exemple de blog juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Au-delà de l'outil, je parlerai d'un logiciel social. Le blog peut être historiquement considéré comme l'évolution de la page personnelle. Cependant, la nature dynamique induit d'autres comportements, d'autres possibilités techniques et, donc d'autres contenus. Une page personnelle, au-delà de l'enthousiasme du début, finissait souvent par devenir statique, s'étiolait sans mise à jour sur le web. Le blog, lui souvent, n'a d'intérêt que s'il est mis à jour très régulièrement, car il propose en standard des outils puissants de traçabilité de sa mise à jour. Ça, c'est très très important. En temps réel, donc ce sont les fameux fils RSS. Donc là, voilà, c'est un exemple de blog. Par ailleurs, le blog induit fortement la notion de partage. Les blogs ne sauraient se limiter à l'expression individuelle, même si souvent, ça aussi c'est important, la communauté des blogueurs se rassemble toujours le plus souvent sur une personnalité, sur un blog et donc sur un contenu. Ainsi, le caractère par nature collaboratif des blogs apparaît clairement dans les outils proposés en standard. Au travers de ces outils, les blogs ont établi un format, souvent le même, les blogs sont de présentation assez uniforme, qui facilite largement l'interactivité entre les lecteurs et le blogueur et entre blogueurs entre eux. Alors c'est par exemple le cas de la blogroll, vous voir la liste, que l'on retrouve sur la plupart des blogs. Et il s'agit simplement d'une liste regroupant les liens amis ou recommandés que les outils de blogging rendent particulièrement faciles à créer et à mettre à jour. Pour les autres utilisateurs, la blogroll peut servir de point d'entrée pour découvrir d'autres blogs. Dans tous les cas, la blogroll constitue une forme de sociabilité et représente une part du tissu social virtuel de chaque blogueur, clairement affichée sur sa page d'accueil. L'aspect communautaire est un élément clé des blogs. Communauté dirigée, unissant un auteur à ses lecteurs, mais aussi communauté horizontale entre auteurs. Chaque weblogueur affiche sur sa page d'accueil la liste de ses blogs préférés et converse régulièrement avec leurs responsables. Sites et lecteurs forment ainsi des chaînes de réseaux sociaux. D'autres éléments du format blog sont également conçus pour induire un échange. Les billets ou posts, qui sont l'élément constitutif de base d'un blog, peuvent facilement s'enrichir des réactions ou commentaires publiés par les lecteurs et par les autres blogueurs. Donc on peut montrer des exemples de posts avec des réactions qui s'enchaînent. Dans ce dernier cas, tout peut s'effectuer également de façon automatisée, donc ça c'est important, c'est-à-dire tout est déjà un petit peu formaté. Le principe est simple, par exemple on cite un billet publié sur le blog A, le blog B en informe le blog A en lui envoyant un trackback, Le blog A reçoit les trackbacks émis et peut ainsi faire apparaître à la fin de ses billets la liste des réactions émanant d'autres blogueurs publiés sur d'autres blogs. Un blog qui marche n'est donc pas simplement un site avec du trafic, mais un endroit qui suscite des réactions et engendre des liens croisés. Au-delà de la publication et du référencement, les blogs servent de base à une infinité de conversations en ligne, soit sur les sites eux-mêmes, soit de blog à blog. On peut donc percevoir que les blogs vont être utilisés comme des éléments de base pour partager des informations à plusieurs, rendant de moins en moins nette la distinction entre communication interpersonnelle, partage et publication. Plus généralement, les blogs et le peer-to-peer aussi ont induit des usages qui montrent que les échanges de pair à pair non seulement se généralisent mais s'étendent à tout type d'informations. Le fait de bloguer, qui correspond aujourd'hui à une action précise, pourrait évoluer rapidement vers des usages plus flous et même devenir simplement synonyme de publier quelque chose en ligne dans le but de le partager, de le faire connaître. Alors ainsi, il y a des nouveaux outils qui apparaissent, qui se superposent aux outils de blog pour généraliser des fonctions de partage et les mettre en avant. Des outils comme Technorati mesurent les tendances issues, par exemple, de la blogosphère. Technorati, comme une sorte de Google de la blogosphère, va indexer les blogs et surtout, il établit en permanence et en temps réel des classements de popularité sur la base des liens hypertextes collectés sur les blogs indexés, mettant en avant l'importance et l'occurrence accordée par les blogueurs au sujet directement qu'ils commentent dans leurs billets. Ainsi se met en place au sein de la blogosphère de véritables outils novateurs, capteurs de tendances et synthétiseurs d'indices de popularité. C'est la parole collective qui l'emporte sur les médias traditionnels. Alors ce qui est intéressant d'observer, c'est ce qui s'applique sur des articles peut tout à fait s'étendre à d'autres domaines, sur des objets de consommation et dans le cas qui nous intéresse par rapport à ZDWeb, sur des livres. Le site All Consuming publiait, parce que je crois qu'il vient de All Consuming, mais vient d'être acheté, donc publiait chaque semaine la liste des livres les plus liés, dont on parlait de manière la plus récurrente possible sur la blogosphère, et regroupait de façon automatisée des extraits de critiques provenant de multiples blogs qui chroniquaient ces livres. Technorati a récemment ouvert un service similaire. Donc Technorati a mis en place aussi ce genre de service, de même un nouveau site qui est un petit peu en bêta test qui est Bookorati. Ainsi, réduire les blogs à des systèmes de publication revient à passer à côté de leur potentiel. Les blogs agrègent de nombreuses fonctions en un ensemble plus homogène, voire fusionnel et viral. Permalien, hyperlien, blogroll, commentaires, fil de syndication, outils de mesure d'audience, trackback. Associés à de nouveaux outils de partage et de collaboration à des moteurs de recherche ou d'analyse, les blogs prennent un caractère collectif. La blogosphère cesse alors de désigner la communauté élitiste des blogueurs qui font l'opinion pour devenir un phénomène collectif qui sort du contrôle de ceux qui l'alimentent. Et c'est l'interaction de ces fonctions qui font en grande partie le succès des blogs. Ainsi, les blogs préfigurent un nouveau mode d'utilisation de l'Internet dans lequel les actes d'échange, de partage, de communication et de publication se rapprochent et s'organisent dans une sorte de continuité au travers de laquelle se manifeste une nouvelle identité collective. Donc je vais vous parler maintenant du format RSS, qui est une sorte de format viral qui excède le support. Hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fil RSS? On peut peut-être juste cliquer sur un blog, sur le lien qui vous est souvent proposé, donc en standard sur les outils de blog, sur le lien RSS, pour voir un petit peu comment ça se présente. Mais ce fameux lien RSS n'est pas l'apanage des blogs, il peut être proposé en fait sur toute forme de site. Alors on propose par exemple un fil RSS sur ZazyWeb. Là en fait c'est une page d'explication sur les fils RSS. Alors qu'est-ce que ça veut dire RSS? Ça veut dire Really Simple Syndication, et c'est un code en fait, c'est du code qui facilite le partage d'informations. Cette fonctionnalité est proposée en standard sur les outils de publication de type blog, mais effectivement dans ce que je vous disais on peut la retrouver sur des sites comme Libération, tout site en fait qui propose une mise à jour très régulière, quotidienne. C'est un outil qui va vous permettre de suivre je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Alors peut-être que sur ton blog. Voilà. Alors souvent bon c'est XML aussi, c'est là un petit bouton XML. Ça c'est peut-être plus Alexandre qui pourrait expliquer pourquoi de temps en temps ça s'appelle RSS, XML.
C'est de RSS et du XML.
Voilà, d'accord. Voilà, alors on arrive sur à la fois du code et puis on a une adresse URL précisée en haut. Alors les deux choses sont intéressantes. Pourquoi ? Bah, d'une part, la ligne URL en fait va permettre à un lecteur de s'abonner à ce fil RSS, donc à ce flux de nouveautés. Le code, lui, va permettre à un webmaster de récupérer en fait le flux de contenu et de l'implémenter sur son site. Donc, quand on parle de lecteur en fait qui s'abonne, il récupère en fait ce flux de contenu dans un agrégateur de nouvelles du type logiciel mail ou interface web. Donc, je vais vous montrer ensuite concrètement comment ça peut se présenter. Et quand c'est un webmaster qui lui récupère et va retravailler sur le code, il va utiliser souvent des parseurs. Alors je vais vous montrer en fait deux exemples.
Vous pourriez parler juste un peu moins vite, s'il vous plaît.
Oui, en fait je vais vous montrer avec des exemples. Alors, en fait, Alors, un exemple d'utilisation personnelle donc, de ce fameux flux RSS. Donc là, en fait, ce que je vous montre, c'est quelqu'un qui utilise donc, une interface web donc, qui s'appelle BlogLines pour s'abonner à des différents fils RSS. Voilà. Donc ensuite, vous avez un ordonnancement du type qui ressemble à un logiciel Outlook pour classer et ordonner vos différents abonnements. L'intérêt de ce genre en termes de veille aussi électronique, c'est que à l'inverse d'un mail que vous donnez sur un site, vous n'allez plus recevoir de spam puisque en fait vous choisissez, vous inversez en fait hein, le flux de l'abonnement, vous choisissez donc de vous abonner à des flux et c'est non plus vous qui donnez votre adresse email pour recevoir les flux. Hein. Donc ça c'est aussi important en termes de gestion des flux. Donc concrètement, comment ça se présente, et ça explique aussi le côté très viral des blogs, c'est que ça, c'est actualisé en temps réel. C'est-à-dire qu'un blogueur qui va mettre à jour son blog, aussitôt, donc dans votre agrégateur personnel de nouvelles de fil RSS, vous avez l'actualisation avec un petit pop-up en fait qui peut s'élever et qui vous indique voilà, tel blogueur vient de mettre à jour son site. Ça vous explique aussi le phénomène, par exemple, de la communauté adolescente des Skyblogs ou autres, le phénomène très viral de ça. C'est-à-dire qu'auparavant, la page personnelle, elle était mise à jour, éventuellement elle se trouvait plus ou moins bien référencée au bout d'un certain temps. Et c'est vrai qu'il y avait un processus finalement assez long. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre, un petit peu comme le chat, on est vraiment dans du temps réel. Enfin, au-delà de l'email presque. Hein. Voilà. Donc ça explique aussi le phénomène d'ultra-réactivité ensuite des blogueurs entre eux, c'est-à-dire qu'à la réception en temps réel d'une nouvelle, un blogueur peut ensuite directement réagir hein, sur le blog d'un autre. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de syndication de fil RSS avec un agrégateur personnel. On peut aussi utiliser un logiciel qu'on télécharge. Donc, je crois que dans les dernières versions du Outlook, d'ailleurs, c'est proposé. On peut s'abonner à des fils RSS dans le Outlook. Mais on peut utiliser un logiciel, je sais pas, du type Sharpreader pour ensuite télécharger et indiquer ses abonnements. Et Mozilla, voilà, je pense. Alors, maintenant, je vais vous parler donc des...
On utilise l'icône qui est là.
Ouais, bas, c'est ça, c'est en standard.
Et automatiquement, on s'inscrit au fil RSS et on le met quelque part dans les bookmarks. Ouais. Ici, avec une catégorie comme ça. Et automatiquement, on voit les nouveaux posts.
Alors l'intérêt aussi donc, de ces flux RSS, c'est pour un webmaster, il va lui permettre de récupérer très facilement du contenu. Donc je vais vous montrer sur un exemple en fait d'usage de parseur en fait. Donc par exemple service doc. Donc parser, en fait, c'est comme syndiquer du contenu, c'est-à-dire c'est du contenu qui est propriété ou hébergé sur un site, qu'on va simplement afficher sur un autre site, sur son site, hein, par exemple, ou sur un autre site. Là, on est sur le site servicedoc.info, qui donc a déterminé, a repéré des ressources qui lui semblaient pertinentes, et qui donc les syndique, enfin les parse, va les récupérer, et les affiche... sur son site. Donc ça lui permet d'afficher, donc là on a l'adresse du, du blog ou du site référent, et puis les derniers titres. Il y a plusieurs options, on peut afficher soit les derniers titres, soit un déroulé de l'accroche par exemple, soit l'intégralité d'une brève. Ça dépend aussi de l'option du blogueur. C'est-à-dire, un blogueur peut tout à fait choisir de ne pas offrir la possibilité des fils RSS sur son blog. Ça aussi c'est une option intéressante si on ne veut pas que son contenu soit diffusé. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on l'a autorisé, on parlait tout à l'heure du choix ou pas de mettre une image. C'est vrai que sur le web, il y a un éclatement un petit peu de la propriété personnelle. On est dans d'autres schémas de pensée. Donc, le parsing ou action de parser les contenus permet de diffuser et d'exploiter librement les contenus. Ainsi, en tant que webmaster, je peux choisir de syndiquer tel ou tel blog au sein d'une thématique. Ceci repense le modèle de flux des contenus pour un site comme ZazieWeb. Un modèle qui n'est plus axé sur la propriété, la diffusion et l'hébergement des contenus, mais sur leur bonne diffusion, tout en s'affranchissant également du modèle de la modération, c'est-à-dire qu'actuellement tout contenu est modéré. Là, il suffit d'identifier les sources. Ensuite, ces sources arrivent directement en flux direct. Cette inversion du modèle de diffusion des contenus est capitale. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire d'héberger des contenus pour les diffuser. Il n'y a plus d'enjeu, quelque part, à être propriétaire des contenus. La valeur d'un auteur se calcule à sa capacité finalement à être multidiffusé et non à être hébergé de manière exclusive sur un seul support. La propriété intellectuelle a un autre sens, au contraire, c'est le droit de diffusion qui l'emporte, donc vers un nouveau droit d'auteur, point d'interrogation. Cela accentue d'autant plus la valeur et l'enjeu de la médiation, du passeur qui diffuse. Jérémy Rifkin parlait de l'âge de l'accès, là, je crois qu'on y est vraiment. Donc on est en train de mettre en place au sein de ZazieWeb un parseur, donc je vais vous montrer l'exemple. Donc un petit peu un prototype. Hein.
Il y a la ligne dessus.
Je sais que c'est bien.
Tu nous diras.
Ben on va vous cacher le mot de passe. Hein.
Tu ne pourras pas voir.
C'est des étoiles.
Tout le monde va le connaître. C'est un point ou un tiret ?
On va voir secret de fabrication de ce
Donc en fait, il y a un site qui est assez intéressant, qui est ListFeeds. Je ne l'ai pas montré. Plusieurs sites déjà proposent des... Et souvent, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas forcément. On pense que les contenus sont produits par le site. Un site comme Réseau.net, en fait, est un parseur de contenus. Un site comme ListFeeds parse des ressources pour les bibliothèques sur 200 blogs en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient finalement à une forme de gestion personnelle de l'internet qui permet en même temps d'avoir une redistribution, un usage collectif. Mais on n'est plus obligé d'en passer par une structure très lourde de gestion communautaire contributive d'un site comme c'est le cas actuellement sur ZazieWeb. Voilà, donc là on est dans la home des blogs qu'on a identifiés sur ZazieWeb comme étant intéressants.
Ça c'est pas encore public.
Non, c'est pas encore public.
Personne ne le connaît.
Voilà. Donc en fait, on a déterminé, il y a trois instances en fait. Il y a une instance par défaut qui est une home blog générale, et ensuite on a déterminé une instance qui serait les blogs de lecteurs, et puis une instance qui serait des blogs ressources libres, pour distinguer des formes peut-être un petit peu plus personnelles de blogs, de formes un petit peu plus de ressources, plus intéressantes ou plus. Voilà. Donc en fait. Voilà, donc là je viens de lancer en fait à la pause l'outil qui parse, hein, donc l'ensemble des blogs qui ont été repérés. Il y a actuellement à peu près 30 blogs parsés. Donc ça c'est en temps réel. Donc c'est très très intéressant parce que ça inverse complètement les flux de contenu. Voilà, donc là on a déterminé 30 blogs ressources et c'est de la mise à jour en temps réel. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure Patrick a mis à jour son blog. Alors là je suis sur la home par défaut, il y a quelqu'un qui a blogué et qui a mis énormément de posts. Donc par défaut j'affiche tout son contenu, mais je vais par exemple restreindre en affichant que les blogs des lecteurs. Alors ensuite, ça pose des questions sur les modèles d'interrogation qu'il faudra bien sûr plus limiter, parce qu'on va arriver, l'ISFID parse 200 ressources de blog, ça pose bien sûr des questions sur les limites d'affichage, les options. Hein. Voilà, donc là on parse ma bibliothèque est net, et donc on voit le site. Que tu viens de, ton blog en fait, que tu viens de mettre à jour. Alors sur les options de parsing, on peut déterminer une mise à jour. C'est assez lourd, hein, parce que c'est comme Google, quoi, on va chercher sur l'ensemble des sites. Donc on va essayer de déterminer deux mises à jour. Voilà. Alors ensuite, sur ces flux RSS, on peut retravailler, choisir de mettre en avant des contenus. Voilà. Et ce qui est assez alors, ce que vous pouvez peut-être repérer, c'est là, on arrive à mettre en avant des livres. Alors ça, c'est important. Là, je vous parlais du data blogging ou blogging structuré. On parlera aussi peut-être plus tard de web sémantique. Actuellement, les outils de blog proposés ne permettent pas une indexation très très fine. Hein. On observe que c'est assez rudimentaire, pas forcément une grande structuration des contenus. Les blogs présentent souvent la même mise en forme et le même standard d'annoncement des contenus, hein, avec un tri par date, des catégories, des archives, une indexation dans Google et Technorati, mais les fonctionnalités proposées sont finalement assez rudimentaires. Ainsi, pour l'instant, si on souhaite voir indexer ses billets en tant que critique de livre, il est nécessaire d'introduire dans le billet, manuellement à la saisie, l'ISBN du livre, soit parce qu'on aura fait un lien vers une librairie virtuelle, donc c'est ce qui nous permet actuellement de repérer des posts qui sont uniquement sur des livres, soit parce qu'on aura volontairement ajouté cette information dans le billet. On peut imaginer à l'avenir l'implémentation automatique de tags qui permettront de mieux indexer, ordonner, stocker des données, donc ça c'est le web sémantique, que ce soit des livres, des objets, des personnes. Technorati propose déjà des tags, il suffit d'ajouter une ligne de code HTML sur son billet pour y associer des tags thématiques. Si pour un billet évoquant un livre est proposé un rattachement automatique à l'ISBN via par exemple la recherche sur le titre, hein, parce que c'est vrai que l'utilisateur ne va pas d'emblée saisir l'ISBN, mais avec une recherche automatique sur le titre, on peut imaginer que ce soit possible, il devient alors possible de générer une base commune agrégée automatiquement à partir de chaque blog individuel. Le blogging structuré donnerait ainsi naissance à un outil puissant et porteur de sens, une sorte de génération collective et spontanée des contenus structurés de la manière la plus pertinente possible. On comprend dès lors l'enjeu contemporain, non pas tant, je dirais, sur la propriété des contenus, que ce soit Google ou la BNF qui numérise finalement importe peu, surtout si plus personne s'en occupe, que sur les moteurs de recherche. L'enjeu donc, se porterait plutôt sur les indexeurs, les médiateurs de contenus, les web designers d'interface ou maîtres d'œuvre de la diffusion. Donc je conclurai sur que peut le web maintenant finalement dans tout ça. Je dirais être un média, le plus pertinent qui soit, poser un dispositif de captation via les tags, le suivi et l'implémentation des fils RSS. Introduire un dispositif de coordination, de mise en lien, de diffusion, de traçabilité qui permet de reconstituer l'action. Être une métaphore temporelle et spatiale, une machine à cristalliser le temps, le fonctionnement. Être un espace de mise en flux, vecteur de la multidiffusion. Si l'on devait reconsidérer en quoi a finalement consisté la révolution Internet, on revient paradoxalement via les blogs, à l'Internet des débuts, à l'espace personnel de diffusion, valorisé au sein d'un processus collectif. Question d'économie aussi. Avec de l'importance donnée finalement à la mise en réseau, à l'usage intensif du mail et du lien, la valorisation des services pratiques. Et là, tout reste encore, je dirais, à faire. La chose la plus intéressante finalement de l'Internet, c'est selon moi paradoxalement quelque chose d'assez peu technologique, à savoir le lien, le liant, et l'art de faire le passage, l'interface, le média, le parsing de tout cela. Je finirai par ce dialogue extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry. Qu'est-ce que signifie apprivoiser, dit le petit prince, c'est une chose depuis trop longtemps oubliée, dit le renard, ça signifie créer des liens. Bref, le web n'existe pas, tout reste encore à inventer.
Alors je crois que c'était aussi concentré qu'un fil RSS, donc si vous voulez déplier, posez des questions. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe sur cette page ? Parce que j'ai cliqué sur rangement de Daniel Auster. Ça ne me paraît pas être une grande vente.
Là, c'est simplement...
C'est pas un livre nouveau ?
Non, ça, c'est simplement les derniers messages sur des livres. Donc, en fait, si tu cliques aussi sur le... Non,
c'est pas celui-là. Ouais.
Voilà, dernier message sur des livres.
Ouais.
Donc en fait, on a créé une autre instance qui permet donc d'afficher uniquement les messages sur des livres, sachant qu'il faut que l'utilisateur effectivement ait indiqué le code ISBN. Pour l'instant, on n'est pas capable de...
Mais qui a fait la sélection de ça? Alors, parce qu'on tombe sur un commentaire de mon blog qui n'est pas spécialement récent.
Non, mais ça veut dire que la dernière fois que tu as parlé d'un livre sur ton blog, c'était ce livre-là.
Enfin, c'est possible.
Et la dernière fois que tu as mentionné le code ISBN, peut-être, d'un livre.
Ou un lien vers l'éditeur.
Ou voilà, quelque chose qui nous aurait permis d'identifier le titre.
Oui, ça c'est possible.
Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Donc après, simplement, nous, on a choisi de parser le blog journal littéraire titulaire, qui est actuellement en instance blog des lecteurs, de le parser et d'afficher.
Mais ça veut dire que depuis, personne n'a parlé d'un livre parmi les différents blogueurs indexés? C'est
quand même... Alors, ça veut dire, c'est-à-dire que s'il n'a pas fait de lien ISBN, soit vers une librairie virtuelle, soit...
soit un endroit où il y a le code.
Soit ISBN. Lui-même en plaçant le code ISBN, on n'est pas capable de le repérer. Alors c'est vrai que sur les blogs aux États-Unis, beaucoup de blogueurs font le lien vers Amazon. Donc en fait, des outils comme All Consuming, très très vite, ont mesuré l'importance de ça. Ils sont capables en fait de recréer des bases générées collectivement de manière très spontanée. Mais c'est vrai qu'en France, le lien d'affiliation n'est pas fait sur... Je sais que la catapulte, justement, l'a testé sur son blog, donc lui, on est capable de le repérer. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer ça. Enfin, d'ailleurs, le titre All Consuming n'est pas anodin. On peut imaginer ça, bien sûr, pour toutes sortes d'objets.
La nouvelle branche de Zazie Web sera en ligne quand?
Alors, en fait, c'est une évolution. Je pense qu'il va falloir... Donc, pour l'instant, on va le mettre en rubrique blog en septembre. Et puis, progressivement, ça va être quelque chose, je pense, qui va... un petit peu l'emporter, c'est-à-dire ce qu'on a vu arriver aussi avec les blogs, c'est que beaucoup de lecteurs ont moins contribué sur le site, parce qu'il y a quand même un effort de démarche sur le site. Ben voilà, oui. Donc on a vu ce phénomène-là. On a vu les lecteurs partir sur les blogs. On s'est posé la question, est-ce que nous-mêmes, on doit offrir des services d'hébergement de blogs, ce qui posait des problèmes quand même assez lourds techniquement, des problèmes juridiques. Et puis finalement, les lecteurs sont assez indépendants. Choisissent leur propre outil de blog, fonctionnent tout seuls. Donc ça m'a un petit peu chagriné au départ, c'est-à-dire je me suis dit c'est un problème, c'est-à-dire il y avait une sorte de déperdition. En même temps, seul Google devenait capable d'indexer le contenu. Donc, c'est vrai que la valeur de Zazie Web, je me suis un petit peu interrogée sur qu'est-ce que ça allait devenir. En même temps, la valeur, je dirais, un petit peu de fédération, comme ça, d'espace repère de diffusion continuait. Mais c'est vrai qu'on pouvait s'interroger. Et en fait, la solution, ça a été effectivement de travailler non pas sur l'hébergement des blogs de lecteurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on voit les différents médias, tout le monde s'est posé la question. Et Le Monde, par exemple, a choisi l'option d'héberger les blogs de ses abonnés sur ses serveurs. Ce qui est quand même très très risqué juridiquement. D'ailleurs, il y a un petit pop-up qui dit en cas de souci, vous pouvez alerter le webmaster. Bon, en même temps, eux, ils avaient des enjeux. Voilà, c'était des. Mais par exemple, un site. On aurait pu penser que Libération, vu la communauté de ses lecteurs, allait le faire, ne l'a pas fait. Hein. Voilà. Mais tout le monde s'est un petit peu posé la question, et c'est vrai que, en fait, ce côté magique des fils RSS permet vraiment de s'affranchir de cette contrainte d'hébergement. Donc je trouve que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire en tant que webmaster de site. Et quand on voit un petit peu le parcours de certains webmasters de sites, on observe qu'au départ, il y avait souvent une page personnelle. Je pense François Bon de Remu.net, des sites comme BD News. Il y a souvent au départ un site personnel qui a évolué en fait avec les nouvelles formes de l'internet vers des sites collaboratifs, contributifs, avec les bases de données, etc. Et puis qui maintenant se transforme en un blog, parce que finalement, on peut revenir à la fois à une forme très personnelle et très liée à la communauté. Voilà. Et c'est ça en fait que et beaucoup de webmasters évoluent vers ces formes-là, reviennent finalement à des sites personnels qui permettent de se réinsérer mais différemment, de manière beaucoup plus puissante et virale dans la communauté. Donc finalement ça résout le problème très lourd d'avoir à gérer des sites contributifs.
Anne Brunel.
Est-ce que ça ne va pas, enfin, si j'ai bien compris, ça va absolument de pair avec l'abandon du principe de modération? puisque ça devient un affichage automatisé, à partir de sources qu'on a quand même sélectionnées.
Oui.
Mais est-ce que ça pose pas à un moment donné un problème qualitatif ?
Ou éthique ?
Éthique, enfin déjà qualitatif.
Oui, en même temps, ça rend, je dirais, l'utilisateur beaucoup plus responsable aussi, beaucoup plus autonome, responsable dans sa, dans les contraintes techniques aussi. Il y a un côté très oppressant parfois sur le site actuel ZaziWeb où on prend en main le lecteur ou l'utilisateur. Finalement, là, l'utilisateur, il se confronte à sa propre, ses propres choix techniques via son blog. Il est responsable de son contenu. Alors, quelles sont les responsabilités juridiques à diffuser le contenu ? Ça, ça pose aussi d'autres questions. Maintenant, on peut toujours ensuite ne plus retirer une source a posteriori. Hein. C'est toujours possible.
Mais est-ce que quand on décide de parser un blog, le blogueur le sait ? Ou est-ce que ça se fait à son insu à partir du moment où il installe un fil RSS ?
Moi, je ne le sais pas.
Parce que dans Technorati, je pense qu'il y a des mesures...
Il n'est pas tenu de faire spécialement attention à ce qu'il écrit sous prétexte qu'il saurait qu'il est publié, il sait où là.
La plupart des outils de blogging indiquent, à côté du trackball URL, le nombre de sites syndiquant le blog.
Le nombre
ouais,
c'est le possible. Nombre...
L'identité
Non, pas l'identité elle-même. Non, mais on peut remonter à l'identité dans certains outils de gestion de blog, pas dans tous.
Michel Bernard. Oui.
Moi, je voudrais dire que je trouve assez saisissant le contraste entre les deux communications de cet après-midi. Et c'est assez intéressant parce que on a d'un côté donc des universitaires qui mettent en ligne un texte ancien qui n'est plus disponible aujourd'hui et qui nous disaient qu'ils ont très peu de réactions de lecteurs, etc. Et puis de l'autre côté, on a ZaziWeb dans lequel il n'y a pratiquement que des réactions de lecteurs. Et un nombre considérable, avec des textes qui ne sont pas des textes rares pour la plupart, mais des textes bien disponibles. Ils sont même tellement disponibles qu'il y a des liens vers les librairies en ligne. Mais ces deux interventions, avec des points de vue différents, des langages différents, des modes d'intervention différents sur le web, ressortissent tous les deux à l'internet littéraire francophone, et c'est assez intéressant de les voir ensemble. Moi, ma question justement porte un peu sur les deux. En disant, est-ce que derrière le blog, il y a un nouveau genre littéraire qui est en train d'émerger ? C'est à la fois une question très rapide et très complexe. Hein,
C'était posé pour l'unitaire, déjà, d'ailleurs.
Oui, bah oui. Ce sont des immatériaux, hein, déjà.
Oui, c'est ça.
Alors, ça dépend peut-être de l'intention des blogueurs. Il y a des blogs qui se veulent littéraires ou qui ont une intention littéraire. Ou qui ne le sont pas.
Quelqu'un comme Philippe de Jonquière, pour moi, est un auteur... qui utilise la forme blog en même temps une forme très, très rudimentaire parce qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de... C'est plutôt une forme logbook, je dirais. Mais pour moi, c'est un auteur sur le web. Enfin, vous parlez d'auteur qui utilise la forme blog. Maintenant, c'est vrai que sur une forme blog, on est tellement... Enfin, c'est aussi le risque de l'Internet, j'imagine, pour un auteur au sens classique, c'est qu'on est tellement dans l'ultra-réactivité. Il y a un risque de se diluer en permanence sur le web, enfin de se retrouver à gérer en permanence la réaction, qui fait que c'est un risque d'épuisement, enfin, un peu ce constat. Et puis pour en revenir à ce que vous disiez sur le début, moi c'est vrai que souvent j'interviens, et c'est vrai qu'il y a des formes très diverses entre les personnes qui vont gérer des formats de numérisation de texte, des problématiques différentes. Et ce que je trouverais très intéressant, c'est que tout ça se maille encore plus. Enfin, l'idée d'un Google qui numériserait des textes au niveau francophone, ce serait vraiment, enfin, pour moi, le sens un petit peu à l'inverse des Américains qui aurait été intéressant, c'était de réfléchir un petit peu à ce que c'est que la numérisation des textes en direction d'un public, en direction de lecteurs francophones, et justement de penser très très loin les formes d'usage. C'est-à-dire que non seulement c'est intéressant de numériser des textes, mais quelle ergonomie, etc. C'est vrai que qu'il n'y ait pas d'ergonomie de base commune, est-ce que c'est pas un problème pour s'y retrouver? Je sais qu'une société comme Index Plus avait travaillé comme ça sur une forme qui était tout le temps la même en fait sur les processus de CD-ROM. On peut aussi identifier son parcours. Et, je sais plus, vous parliez de la forme de l'oubli sur ces formes de parcours sur un CD-ROM. En fait, en fin de parcours, on pouvait retrouver par des petites couleurs le parcours qu'on avait fait, et l'oubli était signalé finalement par des cases blanches. Donc en fait, la notion d'oubli était indiquée, marquée par le parcours, la traçabilité. C'est-à-dire, ce que permet l'Internet, c'est l'ultra-traçabilité. Donc finalement, la forme d'oubli, elle se constitue par l'inverse, hein, l'envers de
le
ça.
Temps, le temps humain.
C'est pas par le manque, mais c'est par le... Ouais. Et c'est vrai que le blog, c'est jamais qu'un outil. Hein, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce, voilà, ce, il me semble, ce nouveau format de type RSS qui est...
J'ai une question, une remarque, c'est que le RSS, c'est pas seulement un outil pour les blogs, oui. Ça peut être un outil tout à fait exceptionnel pour la diffusion des contenus universitaires. Hein. Oui. On va assister au basculement de tout ce qui est information scientifique, type annonce de couleur, etc., sur des formats RSS qui permettront leur syndication et avec. Par exemple, la possibilité qu'un portail de fac ou un portail d'un regroupement de fac syndique les activités, les publications de tous ces départements avec un avantage considérable, c'est que, en fait, l'ensemble des outils de diffusion et de publication de contenu qui existent génèrent tous du RSS. Ça veut dire que tous les départements de fac, vos scientifiques peuvent utiliser tel ou tel système, tel autre département fait autre chose, tel autre fac est à 300 km, mais vous êtes en réseau avec elle, vous avez envie de syndiquer des informations, elle utilise encore autre chose. Grâce au RSS, on peut avoir des plateformes avec des résultats homogénéisés. Sachant que l'étape de ce point de vue-là est et un certain nombre d'outils de syndication de contenu de plus en plus loin qui émergent, c'est la possibilité de filtrer et de réorganiser cette quantité considérable de RSS. Parce que les outils personnels sur les bureaux permettent de le faire. La nouvelle génération en fait, d'outils de gestion de contenu sont complètement centrés autour des RSS. Je pense à des outils comme Drupal, qui est le grand CMS qui émerge, parce qu'il permet de filtrer, de dire je veux parmi les 25 flux RSS ceux qui relève de telle sous-catégorie, etc. Il y a un énorme travail de réorganisation qui va être en train d'être mis en place, même s'il est un peu perturbé par des querelles internes au standard RSS, parce qu'en fait, il y a plusieurs normes RSS qui se battent entre elles. Mouvement qui est entraîné aussi, et j'arrête là, par le fait que maintenant, OS X, la dernière version Tiger, et la nouvelle version de Windows, qui suit XP de la longueur, mais qui est disponible, permettent l'intégration directement, sans le ciel additionnel, des flux RSS. C'est-à-dire que sous la dernière version d'OS X, vous avez en arrière-écran les dernières informations de revue.net, ou Fabula, ou tout ce que vous voulez, qui basculent par flux RSS, sans que l'utilisateur ait quelques logiciels qui soient installés. Et Microsoft est en train d'intégrer ça en fait dans la nouvelle version du navigateur Internet 7 et complètement dans le bureau même de Longhorn. Alors je ne sais pas si ça réussira parce qu'il y avait une première tentative vers l'intégration aux ordinateurs même de ce type de flux qui avait été fait il y a quelques années lorsqu'il y avait les bureaux actifs de Windows. Ça avait été à certaines échelles.
C'est le push, non?
En tout cas, on va vers ce type de solution d'intégration directe des flux RSS dans toute la chaîne, depuis le système d'exploitation même jusqu'aux outils de création de contenu. Avec d'énormes problèmes de filtrage, d'abandon de blogs, parce qu'il y a 700 000 blogs d'adolescents, dont le nombre. Il y a des blogs en déshérence par centaines de milliers.
Oui, enfin, je pense qu'il y aura un peu d'atelier peut-être ce soir à ce sujet, parce que la première fois que j'ai rencontré un blogueur extrêmement érudit, j'étais un peu vexée après de me rendre compte en fait, qu'il travaillait avec des flux RSS, ouais. Et que c'est pour ça qu'il était si magnifiquement informé de tant de choses. Ouais. Et, donc je trouvais déjà c'était le fait même qu'on puisse aller prendre des contenus sans que les gens se rendent compte, sans que là on touche vraiment profondément au statut d'auteur, de la même manière comme lecteur. On touche profondément à notre statut, mais c'est comme ça. Mmh. En faisant arriver des tas de choses nouvelles et de nouveau, on voit bien un illettrisme du web pour tous ceux dont je me sens un peu faire partie, qui ne sont pas forcément capables d'apprendre ces nouveaux outils, de savoir comment installer sur sa machine, de quoi filtrer, organiser. Et en même temps, c'est ça dont on a le plus besoin. D'apprendre à gérer tous ces flux d'informations. On a vraiment le sentiment d'une gigantesque machine à créer du texte, de...
Oui, si vous parlez de... Patrick me demande une page pédagogique, elle est faite en fait sur ZaziWeb. Enfin, souvent vous la trouvez sur tous les sites un petit peu qui forment un petit peu didactique. En fait, en fin de voilà, syndication RSS, en fin de la
en bas de page d'accueil. Moi aussi j'ai été.
Mais c'est vrai qu'au tout début, mais en fait ça va très vite. Le problème c'est on s'aperçoit, enfin ce sera pas la technique, ce sera le c'est ce que disait Alexandre, c'est la capacité à s'y retrouver. La technique, c'est voilà. Donc là, j'explique en fait dans cette page ce que c'est le RSS. En même temps, je renvoie sur des sites hein, qui sont eux-mêmes comme .blog, par exemple le site de Cyril Fievé qui a sorti aux éditions Erol Blog Story, qui est un bon manuel d'initiation. Donc en fait, j'explique à la fois les définitions et formats, l'utilisation, et puis donc ces deux possibilités de logiciels, soit en fait vous un petit peu comme la gestion de votre email, soit vous utilisez une interface web pour recevoir vos emails, genre Yahoo, soit vous utilisez un logiciel que vous avez sur votre ordinateur. L'intérêt de l'interface mail, c'est que vous pouvez la consulter de n'importe quel point. Ce que je vous montrais par exemple sur BlogLines, vous pouvez le consulter de n'importe quel point. Moi j'ai choisi d'utiliser, de télécharger SharpReader, je peux uniquement le consulter sur mon poste. Voilà. Donc après ça peut être mes choix. Et BlogLines peut être partagé. Par exemple là, le blog Lines d'Hubert Guillot, il peut donner à partager aussi ses abonnements. On est vraiment dans l'ultra-partage, en fait. C'est pour ça que la notion de droit d'auteur ou de propriété intellectuelle...
Depuis 6 mois, Nokia intègre un outil de création de blog dans tous ses téléphones portables de nouvelle génération pour permettre la mise à jour des blogs directement depuis les appareils photo.
Nokia.
Et ça a donné des résultats absolument extraordinaires lorsqu'il y a eu des attentats de Londres, hein, parce que les blogs ont été mis à jour dans la demi-heure, avec des photos, grâce à ce type...
Les médias étaient à la traîne.
Les médias étaient à la traîne. Et en fait, il y a des outils qui permettent de détecter les mots à la mode dans les blogs. Mmh. En fait, on peut suivre les mots les plus utilisés.
Oui, mais ça, c'est l'état.
C'est un outil assez empirique parce que les systèmes de catégorisation des blogs, même dans les tout derniers standards, sont pas très opérationnels. En fait.
Donc, on va faire un atelier blog.
Cette accumulation d'informations fait revenir à la question d'Alkmaar ce matin sur l'oubli. Parce que c'est vrai qu'on a une telle masse d'informations que la question de la sélection devient tout à fait importante. Je crois qu'on perd un peu la distinction entre documents, informations et savoir. On a actuellement, par l'Internet, dans différents domaines et dans celui de la littérature, une masse d'informations considérable, il va bien falloir qu'on choisisse, parce qu'effectivement on pourrait aujourd'hui par le téléphone, par être en permanence abreuvé d'informations en continu. D'une part, cette information souvent se boucle sur elle-même, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes informations qui sont répétées indéfiniment, répétées sous des formes différentes et plus ou moins d'ailleurs déformées sur différents blogs. Et ensuite il faut bien qu'on fasse une sélection, et c'est là qu'on retombe aussi sur le problème de la légitimation par la publication sur papier. C'est qu'il faut bien qu'il y ait des instances de légitimation, et alors généralement dans le blog on fait confiance à certains blogueurs, ce sont des gens à qui on fait confiance et qu'on a décidé de récupérer le fil RSS parce qu'on sait qu'il y a là des choses de première main, par exemple, ou intéressantes, que la personne fait un filtrage qui nous intéresse. Mais il faut bien que nous retrouvions, parce que dans l'édition actuellement, c'est l'argent en quelque sorte hein, qui joue le rôle de filtre, puisqu'un éditeur ne va se lancer dans une édition que si le texte est correct, si l'auteur est reconnu, si le texte a été mis en forme de manière correcte. Sur l'Internet, dans la mesure où la notion de gratuité est à peu près universelle, comment va se faire la légitimation des contenus? Comment ZaziWeb, par exemple, répond à cette question?
Je dirais que nous, actuellement, comme on travaille sur du contenu qui est modéré, on a déjà ce travail de diffusion. Donc notre vocation sur les blogs, ce sera justement notre vocation à repérer les blogs qui nous semblent pertinents.
Pourquoi celui de Patrick Rébollard, par exemple?
Oui. Et lui-même, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'après, c'est un maillage permanent. C'est-à-dire, lui-même va référencer dans sa blog roll d'autres blogueurs. Donc lui-même devient une personne référente, un blogueur référent. De la même manière, comment se constituaient les annuaires de sites du début? C'était le phénomène des. C'est le phénomène, plus on est cité hein, sur l'Internet, plus c'est ça qui acquiert de la notoriété. Donc on peut imaginer, par exemple, la forme imprimée, ce serait finalement la forme figée à un instant T de quelque chose qui est en permanence mis à jour et polydiffusé sur le web et cité, mentionné, relié. Et moi, la forme libre, je la trouve encore, je dirais, notoirement pertinente, parce que c'est quand même la forme qui, à un moment, pose une limite à tout ça. Une instance, une légitimité intellectuelle, et ça me semble, enfin, pour moi, encore la forme la plus valorisante, parce que justement, elle fige à un instant T quelque chose que ne peut plus figer l'Internet, justement. Ça peut sembler paradoxal, oui, mais.
Paradoxal, ça veut dire que dans un univers d'abondance, on essaye de retrouver des formes de pénurie pour
oublier, justement. Il y a un courant à la mode en ce moment, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est ces personnes qui reviennent, en fait, à des modes de vie...
Les réacs.
Non. Non, c'est... Il y a une forme de retour...
Non, il y a un truc qui s'appelle « Using RSS feeds to set off a traffic explosion ». Ça a été publié il y a 6 heures et il y a déjà 74 liens qui pointent vers ce blog.
C'est les parseurs, précisément.
C'est ça. Ah non, plus que ça, parce que là, par exemple, tu as un truc qui a 5 heures et il n'y a que 3 liens.
Non, c'est pas uniquement ça, des machines. C'est où c'est des blogueurs qui sont abonnés, en fait, au blog de cet auteur,
ouais.
Et qui ont en fait cité, repris son information, voilà, en élargissant ou en réagissant dessus.
Voilà, en l'espace du site.
Mais ça ne veut pas dire que son contenu est forcément parsé par d'autres sites. Hein, c'est...
Non, il y a des liens.
C'est des liens de. Voilà.
C'est au sujet du RSS, hein, donc c'est pour la pédagogie. Avec ici des RSS. Voilà, d'autres questions? Comme il est 6 heures, on peut aussi aller se reposer.